Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Aujourd'hui, grâce à l'incroyable exposition du Musée des Beaux-Arts de Lyon sur le thème du drapé, nous examinons, dans l'art, cet objet particulier que le grand historien Abi Warburg appelait « l'outil du pathétique » et dont nous suivons les infinies métamorphoses du classicisme grec à nos jours dans un rassemblement de chefs-d'œuvre exceptionnels, Michel-Ange, Raphaël, Durer, Ingres, Degas, Rodin, Picasso, le drapé. Le drapé, complément obligé du nu, cette puissante formule expressive semble moins vêtir que dire. Dire la joie, le désir, la mélancolie, les larmes ou le vent du génie qui s'engouffre dans les tissus de l'esprit. Le drapé, ses plis, ses tombées, ses froissés, ses relâchés, ce sont ces chiffons que l'on voit, ces chiffonnés. Le drapé, préoccupation permanente de l'art de tous les temps, comme si l'humain, comme le dit Lacan, n'était qu'un porte-manteau en promenade. De la Grèce à aujourd'hui ont survécu ces formes, comme si elles avaient été transmises pendant 2000 ans et que cette exposition, en les montrant, nous faisait découvrir l'essentialité de ce que nous pensions être un simple accessoire. Pour en parler, je vous propose de rencontrer avec moi Éric Pagliano. Bonjour Éric.
Bonjour Jean Gatti.
Vous êtes le co-commissaire de cette exposition avec Sylvie Ramon. Et vous êtes vous-même un spécialiste du dessin, mais surtout de quelque chose, d'ailleurs j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est, que vous appelez le processus de création. Comment est-ce qu'on peut être spécialiste du processus de création ?
Ça peut paraître étrange, mais il faut savoir qu'une œuvre d'art, avant d'être une œuvre d'art, est quelque chose en cours de construction. Et pour mettre en place les idées qui conduisent à l'œuvre d'art, les artistes, à partir du XVe siècle, lorsque le papier se répand, dessine. Et dessiner, c'est chercher à mettre en place des idées. Et je m'intéresse à tout ce qui précède l'œuvre d'art. J'étudie ces processus de création donc à travers le dessin. J'essaye de réunir, de constituer ce qu'on appelle des dossiers génétiques ou préparatoires, rassemblant tous ces éléments graphiques, mais pas seulement. Il y a aussi des notes littéraires qui sont prises à partir de diverses références, et tout ceci constitue ce qu'on appelle donc le dossier génétique. Et la grande entreprise que je mène, surtout lorsqu'il s'agit d'œuvres anciennes du 15e, 16e, 17e siècle, c'est de pouvoir réunir tous ces éléments qui sont dispersés dans des collections publiques, dans des collections privées qui parfois sont mal attribuées. Donc je suis aussi connaisseur, pas seulement un spécialiste.
J'aime bien ce mot. D'où ça vient, ce mot connoisseur? C'est un mot anglais, non?
C'est un mot français à l'origine.
Ah bon?
On disait connoisseur au XVIIe siècle, que les Anglais, à cette époque, ont emprunté à notre langue, et nous l'avons à nouveau réemprunté. Ce mot est revenu dans la langue française un peu plus tard. Et au XVIIIe siècle, la plupart des spécialistes du dessin se disaient connaisseurs, et de la peinture aussi, bien entendu. Et ce mot est resté au XIXe, au XXe siècle, même s'il n'est pas tellement employé, il faut bien le dire. Mais j'aime bien me désigner sous cette appellation
ça veut dire
de connaisseur.
Regardeur savant, en quelque
un
sorte.
Un regardeur savant qui cherche à restituer à des œuvres anonymes leur nom, leur paternité.
Alors, vous êtes lancé avec Sylvie Ramon pendant 5 ans sur ce thème incroyable du drapé. Alors, je dis incroyable parce que ça paraît d'abord un sujet assez banal, assez ordinaire, effectivement. Quand j'y pense, en apprenant l'histoire de l'art, étudiant, on me dit, reconnaissez tel atelier de sculpture médiévale au drapé, reconnaissez telle période, un changement dans le drapé, etc. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était important et surtout, sur effectivement plus de 2000 ans, une attention constante des artistes.
La draperie, c'est un terme d'abord qui appartient au champ lexical des arts. À l'origine, c'est à désigner la fabrication de draps, mais dès le XVIe siècle, on pense que les artistes se sont appropriés ce terme. Donc c'est un mot qui appartient aux arts, à la peinture, à la sculpture. Et dès le XVIIe, il est défini dans le dictionnaire de Philibien, c'est la représentation ou l'imitation des tissus dans la sculpture ou dans la peinture. Donc c'est cette dimension-là, de la représentationnelle ou mimétique, qui fait qu'une draperie est une draperie dans la peinture ou dans la sculpture. Et effectivement, vous avez dit que, en histoire de l'art, généralement, la draperie constitue une sorte d'élément de reconnaissance stylistique. Wölfflin et tous les historiens de l'art allemands, jusqu'à une certaine époque, ont pensé la draperie comme élément de reconnaissance. Mais avant d'être un élément de reconnaissance pour l'historien de l'art, pour l'artiste, c'est un défi en matière de représentation. Comment représenter quelque chose qui est constitué de divers et de mille plis sur un corps? C'est tout un défi qui parcourt les âges et les périodes depuis l'Antiquité.
Alors, je vous propose, puisque vous dites cela, d'écouter ce que dit Wölfflin. C'est ce grand historien qui a, au fond, organisé les rythmes de l'histoire de l'art, on peut dire.
À travers lui, on a pensé en termes binaires, si je puis dire, ouvert, fermé, classique, baroque.
Oui, ça a été
mais
remis
c'est
en cause.
Un regard, ça a été remis en cause, mais c'est un regard qui a façonné des générations d'historiens de l'art et qui est une forme aussi d'éducation au sens premier du terme. Quoi.
La stylisation des draperies fournit à cette époque un matériel très riche aux psychologues de la forme. D'un nombre d'éléments relativement restreint, naît une variété incroyable d'expressions fortement individualisées. Des centaines de peintres ont représenté la Vierge assise, l'ample robe entourant les genoux de ses plis abondants. À chaque fois, c'est une forme nouvelle qui révèle un homme tout entier.
Eric Pagliano, on vient d'entendre ce petit extrait de Wölfflin. Ce qui m'intéresse, c'est une forme nouvelle qui révèle un homme tout entier. Et au fond, on se rend compte, en écoutant simplement cette phrase, que la fonction du drapé n'est pas de représenter un vêtement d'une époque, mais de représenter une émotion, un caractère, une particularité, un personnage historique.
Comme si le drapé, c'était l'homme, d'une certaine manière.
Ben oui, c'est ce que dit Lacan.
C'est ce que dit Lacan, c'est ce que dit Wölfflin à sa manière, même si Wölfflin introduit aussi, dans d'autres textes, une dimension stylistique. Le drapé, c'est ce qui permet aussi de dater, d'assigner à une forme, une date, une période bien précise. Et c'est cet élément-là de reconnaissance sur lequel l'histoire de l'art a trop longtemps insisté à mon goût, avant de s'intéresser à...
Ils sont devenus ennuyeux, au fond, à force d'y insister, au lieu de montrer ce que montre l'exposition d'une façon incroyable, c'est à quel point la continuité des drapés permet de lire une iconographie du drapé qui est comme une iconographie des émotions.
Oui, alors là, on introduit Warburg, d'une certaine manière, lorsqu'on parle de pathos et d'émotion. C'est l'introduction de l'exposition. La profession de foi, d'une certaine manière, des commissaires, moi-même et Sylvie Ramon, on a essayé de dire et de montrer que le drapé avait encore du sens aujourd'hui parce qu'il en avait pendant 20 siècles, 25 siècles, aussi bien en Occident que dans toutes les autres civilisations, même si on n'a pas ouvert le propos à toutes les périodes, à toutes les civilisations, c'eût été trop ambitieux, trop vaste. Mais en insistant sur le caractère émotionnel, on a voulu montrer que le drapé, c'était une surface qui permettait d'exprimer quelque chose d'intemporel, l'émotion, la peur, la douleur. Et les œuvres qui ont été réunies appartiennent dans cette introduction à toutes les époques. Il y a un marbre antique sublime qui vient du musée du Louvre.
Ah, décrivez-le nous, il est très important.
Qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui serait un original ou une copie, enfin peu importe le statut, en tout cas d'une statue qui se trouvait à l'origine, pense-t-on, sur l'acropole d'Athènes et qui porte le surnom de la suppliante Barberini, donc une référence à la tragédie d'Eschyle. Et l'on voit une femme qui est pratiquement allongée. Elle a un regard ému. Elle souffre. Et bien entendu, son corps est revêtu d'un long plissé. C'est une sculpture d'une très très grande beauté. Elle est là, c'est la première œuvre de l'exposition, non pas pour dire que la draperie commence au 5e siècle avant Jésus-Christ, non pas pour présenter l'exposition de manière chronologique, on a voulu éviter cette sorte de défilé de drapés classés de manière quaternaire, c'est-à-dire Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. Ça n'avait pas de sens de présenter le drapé de cette manière-là. Mais c'est pour dire, voilà, le drapé a quelque chose qui relève de l'intemporel, une émotion qui se traduit à travers la pierre ou la peinture à toutes les époques. Et juste à côté, il y a un dessin de Jacques-Louis David, donc de la fin du XVIIIe siècle, qui prépare une figure dans un grand tableau qui est au musée du Louvre, les lecteurs rapportant à Brutus les corps de ses fils. Et c'est la figure de la nourrice qui pleure la mort des fils de Brutus. Et son visage est voilé, entièrement voilé. On ne voit pas son visage. Ça fait écho aussi à une anecdote racontée par les auteurs anciens au sujet d'une œuvre d'un peintre qui s'appelait Timanthe, qui s'était chargé de représenter le sacrifice d'Iphigénie. Et il n'arrivait pas à représenter la douleur du père d'Iphigénie, Agamemnon. Et il a trouvé un subterfuge génial qui a consisté à voiler la face. Voilà. Je ne peux pas représenter la douleur du père, donc je la voile. Mais en la voilant, il la montre, il suggère quelque chose. Là, c'est tout le travail du spectateur aussi, de celui qui regarde l'œuvre et qui imagine une douleur. Et
pardon, je vous interromps, mais parce que l'exposition, il y a aussi les pleurants de Sluter ou du tombeau des ducs de Bourgogne. C'est la même chose. On ne les voit pas. On ne voit rien.
On ne voit rien. Le visage est caché par la capuche du moine. Et c'est la sculpture qui est d'ailleurs juste à côté du dessin de David. Donc une œuvre de la fin du 15e siècle qui appartient au musée des Beaux-Arts de Lyon. Et on retrouve ensuite cette figure à travers des personnes allongées, des figures allongées. Mais là, on est au 20e siècle, à travers deux photographies de Cartier-Bresson, oui, qui montrent des vagabonds en train de dormir au Maroc et en Espagne dans les années 30 du siècle dernier. Et puis on termine dans cette salle avec deux grandes photographies
de
Mathieu Pernaut, de la série des migrants.
Qui dorment dans la rue et qui sont couverts d'un drap. L'un, on dirait un drap blanc comme un linceul. L'autre, c'est probablement un sac de couchage.
C'est un sac de couchage
et
bleu.
Humide comme ça. Et ouais. C'est très beau de sentir cette permanence. Et c'est terrible aussi. C'est-à-dire que ce qui me fascine, moi, dans cette partie-là, c'est qu'il faut recouvrir le corps pour montrer les émotions qu'il produit.
C'est tout le paradoxe du drapé. C'est dès le 5e siècle, avec Timanthe, on est dans ce paradoxe. Il s'agit de cacher pour montrer. Et toute l'exposition tourne d'ailleurs autour de cette sorte de dialectique. Quand on avance un peu dans le parcours, on s'apercevra, on en parlera peut-être prochainement, que le nu est au cœur même du drapé, qu'il est la fonction formante du drapé, l'élément formant. Et ce paradoxe est un fil conducteur dans toute l'exposition.
Alors on va y revenir, mais d'abord éclairez-moi sur une chose. Les draperies que l'on voit par exemple dans cette sculpture grecque, est-ce que ce sont les vêtements d'une époque? Et lorsqu'ils sont repris sur le corps de Saint-Pierre, est-ce que la draperie est un vêtement?
Non, alors là vous introduisez une différence capitale et une dichotomie même entre la draperie et le vêtement. Et dès le XVIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, les théoriciens de l'art, mais également les praticiens, ont introduit volontairement cette différence. La draperie, c'est un vêtement, d'une certaine manière, intemporel. Non seulement la draperie désigne la représentation d'un tissu, mais c'est aussi un vêtement qui montre une certaine forme de survivance de l'antique.
Mais une survivance imaginaire ou une survivance réelle ?
Tout dépend des thèmes aussi qui sont abordés, qui sont représentés. Lorsque un peintre présente un sujet sacré, la vie du Christ, le Christ est un personnage antique. On le montre vêtu de draperies, comme au 1er siècle après Jésus-Christ de son temps. Il en est de même lorsqu'on représente des scènes tirées de l'Iliade ou de l'Odyssée ou des grands auteurs antiques. Et comme ces thèmes parcourent toute l'histoire de la peinture et de la sculpture de la Renaissance, et même bien avant, jusqu'à la fin des traditions académiques, la draperie est au cœur même de ces œuvres-là. Alors que le vêtement désigne des tissus, des costumes contemporains.
Je pense par exemple à une Grunewald, à un tableau de Grunewald, Matthias Grunewald, à un dessin de Grunewald extraordinaire, Sainte Dorothée. Sainte Dorothée a la tête penchée, elle est prise dans une draperie qui ressemble à une draperie d'Issimiaké, avec un plissé extraordinaire. Je pense que si elle se déplaçait avec ce drapé, elle trébucherait immédiatement tellement il est abondant. C'est un drapé qui est tourmenté comme une âme prise dans le doute ou l'inquiétude. Et je suppose que ça n'a rien à voir avec le vêtement. Et ça me fait penser à ce que disait Coypel, et étudier le drapé pour étudier les costumes. Et je pense qu'il y a une confusion de la part de ce Antoine Coypel, immense artiste du XVIIIe siècle, en tout cas dans sa petite conférence qu'il faisait donc à l'Académie royale de peinture. Écoutons-le.
L'art de bien draper est une des parties de la peinture la plus essentielle. Elle renferme en elle presque toutes les autres, c'est-à-dire l'invention, la composition, le dessin, la grâce, le contraste, l'imitation, le pinceau, la couleur, l'harmonie, le clair-obscur et le costume.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière. Je suis avec Eric Pagliano, historien, co-commissaire de l'exposition Drapé, qui se trouve en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Lyon et qui est une exposition que je considère extraordinaire, un modèle d'exposition thématique où les époques, les maîtres s'enchaînent pour essayer de nous donner une signification de cette récurrence, de cette forme récurrente qu'est le drapé et dont nous explorons l'importance. Je pensais effectivement que c'était un outil secondaire et je m'aperçois que c'est essentiellement un outil expressif. Et nous étions là-dessus. Est-ce que c'est un vêtement ? Est-ce que c'est un outil expressif ? Coypel dit, ça vous permet d'étudier le costume ? Est-ce que ça représente des costumes ou autre chose ?
Alors, Eric. Le mot costume a deux sens au XVIIe ou XVIIIe siècle. En fait, c'est un emprunt à la langue italienne. Frère de Chambray, les théoriciens français sont les premiers au début du siècle, au XVIIe, à l'avoir utilisé. Ça désigne en fait la coutume, le contexte même dans lequel l'œuvre doit être placée.
Donc j'ai fait un contresens de lecteur en disant qu'il se trompait. En fait,
non,
il était exact.
Non, à cette époque, le mot costume avait un autre sens. Donc il faut faire très attention lorsqu'on lit ce texte qui date du début du XVIIIe, qui est issu d'une conférence donnée à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc il parle en fait du contexte. Il faut que l'artiste respecte les vêtements, qu'il les mette dans le contexte même. Donc lorsqu'il représente un sujet sacré, il faut bien que le Christ porte une draperie et pas une armure ou je ne sais quoi d'autre.
Donc c'est une iconographie du drapé, on peut dire. C'est une lecture pratiquement grammaticalisée du drapé.
Exact, oui. C'est une Coypel, et comme la plupart des académiciens peintres font très attention à ne pas faire des... ne pas introduire de l'anachronisme dans la peinture. C'est tout un débat qui...
Il y a un moment donné, une citation de Goethe dans le catalogue, par exemple, ouais, où Goethe dit « Mais c'est par la draperie que vous allez reconnaître Saint-Pierre, c'est parce que son visage, on n'en a aucune idée. » Et donc, ça va très loin, la précision iconographique de l'utilisation de la draperie.
Oui, mais ça forme un tout. C'est la draperie, mais c'est aussi l'attribut de Saint-Pierre, les clés, c'est aussi la barbe. Enfin, c'est un élément parmi d'autres. Mais effectivement, la draperie constitue, je dirais, pour une figure comme Saint-Pierre, environ 60% de la visibilité de la forme par rapport au reste. Donc on reconnaît la plupart des personnages. En tout cas, on peut les contextualiser à travers la draperie à cette époque-là.
Alors, il y a une personne qui, au fond, suppose, me semble-t-il, que la draperie, on a beaucoup à apprendre de la façon dont on se drape en Orient, en Afrique du Nord. C'est
Gassian
de Clérambault. Étrange personnage, professeur à l'école des Beaux-Arts, psychiatre, photographe, ethnologue, hein, d'une certaine façon, et qui rassemble une documentation folle sur les draperies. Est-ce qu'il est comme Delacroix ? Est-ce qu'il va voir du grec sur nature, si je puis dire ?
On peut effectivement mettre la figure de Clérambault en rapport avec celle de Delacroix. Delacroix est allé au Maroc, il a été fasciné par les vêtements portés par les Marocains, par le haïk, les costumes traditionnels, et Clérambault l'a été également. Mais l'ambition de Clérambault, elle était vaste, elle était encyclopédique. Son intention, c'était de constituer, d'écrire une histoire universelle de la draperie à travers tous les âges, toutes les périodes, toutes les civilisations. Alors malheureusement, il n'a pas eu le temps de mener à bien ce projet. Il s'est suicidé devant un miroir les années 20, j'ai plus la date exacte en tête, mais il est allé au Maroc, comme Delacroix, en 1917, en tant que psychiatre, et il a consacré une grande partie de son temps à photographier des hommes, mais aussi des femmes, surtout des femmes, portant les costumes traditionnels du Maroc, particulièrement le haïk, dans des intérieurs ou à l'extérieur. Et les photographies pour lui n'étaient pas une œuvre d'art à part entière. Il n'en a pas exposé beaucoup de son vivant, quelques-unes à une exposition coloniale qui avait été organisée à Marseille en 1922, je crois, mais je suis pas certain de la date. Il utilisait les photos en fait pour étudier la manière dont les vêtements étaient portés. Donc il avait mis au point un système qui était constitué de clichés, de tirages qu'il insérait dans des glissières. Plusieurs, 7, 8, 10. Et chacune des figures photographiées portant le vêtement montrait un stade différent de la pose, de la mise en place du haïk, du costume traditionnel.
Alors, ce qui est étrange, dans ce que vous dites, c'est qu'on s'aperçoit que lui se passionne pour la construction de la draperie sur le corps et la façon dont on le plisse, on le met, on l'installe. L'interprétation qu'on a fait du travail de Clérambault est devenue une sorte d'érotomanie des tissus, qui est une interprétation, au fond, je dirais que l'histoire a toujours raison, même si ce n'était pas le cas pour sa recherche profonde. On y a vu cela, ça nous a passionné évidemment, mais aujourd'hui on sent quand on vous en parlait que c'est pas ça, que c'était beaucoup plus technique et que même son travail sur l'érotomanie cette fois-ci en tant que psychiatre était d'un autre ordre qu'une obsession personnelle, si je puis dire. Mais il n'empêche que c'est d'une beauté incroyable ce qu'il en a sorti, ces images. Je dirais, c'est curieux ces époques où Marais ne pensait pas faire des œuvres d'art. Nous considérons ces objets comme des œuvres d'art. Duchesne de Boulogne ne pensait pas faire des œuvres d'art. Nous considérons ça comme des œuvres d'art. C'est pareil pour Clérambault.
C'est pareil pour Clérambault, c'était avant tout un outil pour étudier des formes. Et effectivement, son ambition était aussi de décrire finement, à travers des termes empruntés à l'anatomie et aux arts, toutes les formes. Prenons un exemple, le voile, il l'appelle pas voile, il l'appelle drapé céphalique. Donc c'est une sorte de jonction de termes qui appartiennent à deux champs lexicaux totalement différents, ou le drapé scapulaire pour les drapés qui tombent à partir des épaules. Alors bien entendu, vous avez parlé de l'érotomanie. Clérambault était un psychiatre, il a fait sa thèse sur la passion érotique des tissus chez la femme, elle a été publiée, elle est encore accessible, elle a été republiée il y a quelques années, et on a fait le lien entre cette thèse et par la suite les photographies qu'il a faites.
Disons son obsession scientifique.
Scientifique, bon, il y a forcément un lien, bien entendu. Mais comme ce sont des psychiatres qui ont redécouvert Clérambault au début des années 1980, on en a fait une lecture seulement psychanalytique, psychiatrique ou obsessionnelle. En tout cas. Mais il faut aussi tenir compte de l'ambition de Clérambault, qui se voulait une sorte d'ethnologue, anthropologue de la draperie. Et je pense qu'il faut tisser d'une certaine manière ces deux aspects-là, pas renier l'un pour reconsidérer l'autre. Les deux doivent être...
Mais nos passions s'allument les unes les autres, voilà, hein, de toute façon. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est professeur à l'École des Beaux-Arts. C'est une époque où l'orientalisme est dans l'air, et il proteste contre ces étudiants ou ces jeunes artistes qui drapent à peu près n'importe comment leur personnage pour que le drapé soit expressif. Et alors qu'il trouve que ce n'est pas rigoureux, en fait, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais ce que vous dites sur l'effort linguistique, l'effort analytique comme ça, c'est quelque chose qui, dans un texte que vous avez écrit, en vous inspirant des textes de l'époque, apparaît. Je pense en particulier à cet effort fait pour trouver un vocabulaire historique dès la Renaissance pour décrire chaque élément du pli. Écoutons-le.
Le rôle essentiel joué par les plis dans l'ordonnance du drapé a amené les artistes et les théoriciens à mettre au point un vocabulaire spécifique pour en désigner certains aspects. Deux expressions sont notamment à relever. Toutes deux apparaissent dans la littérature artistique italienne au milieu du XVIe siècle. L'occhio delle pieghe, l'œil des plis, et ammaccatura, légère brisure. En 1549, dans un ouvrage intitulé « Disegno »,« Dessin », le polygraphe Anton Francesco Doni est l'un des premiers literati à employer l'expression « œil du pli ». Il l'utilise, qui plus est, dans un contexte théorique particulier, au cours duquel il affirme qu'il n'existe pas de règles pour apprendre à faire des draperies, en raison de la diversité des manières propres aux artistes. Ainsi voit-on des « plis très obscurément ombrés avec des contours, d'intorni, infinis, et des sortes, maniere, dieux de plis, occhi di pieghe. Alors que certains sont délicats et légers avec de simples contours, et d'autres, petits et mesquins. Doni ne définit pas cette expression, dont on devine néanmoins le sens. Elle caractérise la profondeur du pli. Un autre lettré l'emploie, Raffaello Borghini, dans son dialogue sur les arts intitulé Il Riposo, 1584. L'œil est placé entre la partie ombrée et celle en pleine lumière de la figure. La théorie de l'art française s'en empare, tant et si bien qu'une entrée est réservée au terme yeux dans le dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure, 1792. Défini ainsi. Les yeux dans les draperies sont les points où se cassent les plis. C'est dans les yeux des plis des étoffes que les artistes ont occasion d'exprimer la forme la plus sentie de leur draperie, par la touche et par l'effet des lumières et des ombres. C'est par les yeux que les étoffes se caractérisent. Ils sont aigus dans le taffetas et le satin, plus ronds dans la serge ou le drap, plus fins dans les linges et autres étoffes molles et très légères. Ainsi, il n'y a pas de manière unique qu'on puisse choisir exclusivement pour les yeux des draperies, parce que la nature en offre de très variés.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière, et je suis avec Eric Pagliano, le commissaire, le co-commissaire de l'exposition Drapé au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et nous parlons de cette question du drapé. Nous venons d'entendre ce mot formidable pour décrire un pli, les yeux, comme ça. Et je me souviens que vous citez dans le catalogue à un moment donné une phrase de Théophile Gautier, et cette phrase de Théophile Gautier est folle. Je ne résiste pas à vous la lire pour que on y revienne, parce que c'est tellement... Jamais artiste, statuaire ou peintre n'a creusé le pli d'un œil, d'un ciseau ou d'un pinceau plus sûr, ne l'a fait filer d'un geste si noble, l'élargissant, le rétrécissant, le suspendant autour des formes comme une caresse ou une glose du contour. Extraordinaire ce que dit Gautier de l'œil du pli.
Oui, alors ça c'est Gautier a trouvé une expression pour commenter et analyser l'œil du pli extraordinaire. Bon, il joue aussi avec le commentaire du tableau qu'il fait d'Ingres, qui représente le Christ et les prophètes. Donc, les prophètes font écho à la glose, bien entendu. Il y a tout un jeu de mise en abyme.
Sur la glose du contour et la glose du prophète.
Donc, il fait résonner en fait une dimension artistique avec une dimension théologique. C'est ça qui est extraordinaire dans ce texte. Mais on peut l'étendre, bien entendu, à tout œil du pli. L'œil du pli, c'est une forme de commentaire même de la forme du pli en train de se creuser, de devenir creux, volume, etc.
Parce que il y a un vocabulaire fou pour les plis en tuyaux d'orgue, enfin il y a plein de ce que vous disiez par exemple dans votre texte, la macatura, ce qui veut dire la légère brisure. Enfin il y a une c'est un petit peu comme la qualité de la neige chez les Esquimaux. Je pense qu'il doit y avoir pour l'historien d'art 60 façons de décrire un pli.
Oui, alors pour le 16e, 17e, 18e, j'ai très peu trouvé d'expressions, à part celle-ci, mais ce sont les historiens de l'art, surtout en Allemagne à la fin du 19e, qui vont essayer de caractériser les plis, notamment des statues germaniques, qui sont constituées de drapés parfois excentriques, des formes assez étranges. On parle de drapés en forme de branchies, chez Grunewald, chez des sculpteurs comme Riemann et Schneider. Donc les descriptions vont très très loin. Et je voudrais revenir un peu sur l'œil du pli. On m'avait posé une question lorsque j'avais assuré une visite au musée de l'exposition. Pourquoi l'œil? Et ce n'est pas dit dans les textes, mais on peut imaginer très bien, lorsqu'on fronce l'œil, quand on regarde quelque chose attentivement ou quand on est étonné, des petites rides se forme tout autour de l'œil. Donc l'origine est peut-être là, elle a une dimension humaine, anatomique, presque d'une certaine manière, et ce que l'on voit sur un visage, les plis qui se forment autour des yeux, peut se retrouver sur un pli d'une draperie quelconque, chez des artistes comme le Bernin ou Durer, bien entendu, et où les yeux sont extrêmement forts et prégnants.
Alors Bernin, il y a des sculptures incroyables, des dessins incroyables comme ça dans l'exposition, et évidemment, quand on pense pli, on pense baroque.
On pense baroque, effectivement. On a obtenu en prêt deux statuettes en terre cuite du Bernin, brisées, assez extraordinaires, fragmentaires, tout simplement parce qu'on les a retrouvées il y a une cinquantaine d'années dans un atelier d'un sculpteur, non pas Bernin, mais d'un suiveur du Bernin qui occupait l'immeuble en question. Et en faisant quelques recherches, on est tombé sur ces statues brisées, fragmentées, et que l'on a mis dans deux sous-sections de l'exposition, dans la troisième partie, qui s'intitule « L'anatomie de la draperie », et où on expose des dessins, des sculptures et des photographies autour de la draperie comme presque motif, objet en cours d'étude. Et on a mis en exergue des notions qui appartiennent au domaine du dessin, ce qu'on appelle la mise en réserve notamment, qui consiste à ne pas représenter une forme pour mettre en valeur une autre forme, afin de l'étudier en profondeur. Prenons l'exemple d'un dessin qui est attribué à Léonard, qui est présenté dans cette section. On ne voit que la draperie, mais si on regarde attentivement, on devine une forme qui est celle du corps sous-jacent sur lequel repose la draperie. Léonard ou Verrocchio, peu importe l'auteur de ce dessin.
Verrocchio étant le professeur de Léonard.
Voilà. Mais bon, là, on rentre dans des débats d'attribution vains, d'une certaine manière.
Vous n'avez pas deviné sous la draperie
Non, le nom ne s'est pas caché sous le...
un oiseau de proie particulier.
Non, on n'est pas dans le tableau du Louvre, la Sainte-Anne. Mais on pourrait, hein, mais pas chez Léonard. Là, Léonard se concentre sur une forme, uniquement une forme. Il ne représente pas le corps en lui-même. C'est ce qu'on appelle donc la mise en réserve. Et on a placé la statuette du Bernin juste à côté.
Vous pouvez la décrire, la statuette du Bernin ?
Alors celle-ci, la première, montre une figure acéphale, donc sans tête. Elle a perdu sa tête, elle a été brisée. Ce n'est qu'un corps drapé. Enfin, on devine la présence d'un corps, mais quand on la voit en premier lieu, ce ne sont que plis. Et en fait, cette œuvre, là je rentre dans des catégories un peu absconses, rentre dans celle de la demi-dissonance. Alors, je m'explique, la demi-dissonance.
La demi-dissonance.
Oui, mais il y a des œuvres dissonantes
et des œuvres demi-dissonantes. Très, très spécialisées. Oui. Allons-y.
Alors, parce que, tout simplement, avec Sylvie Ramon, donc là, qui est co-commissaire avec moi, on a voulu introduire des œuvres qui appartiennent à notre époque, 21e siècle ou fin du 20e siècle. Mais comme on a choisi un axe qui suit des processus de création, c'est assez difficile d'exposer des œuvres pour lesquelles le drapé est simplement un motif artistique et non pas quelque chose en cours d'étude ou de formation. Et dans chacune des sections, on a décidé de placer ce qu'on appelle les œuvres dissonantes qui ont un statut de commentaire ou critique sur les œuvres qui sont présentées. Et puis il y a les œuvres semi-dissonantes. Alors ça, on rentre dans une catégorie.
C'est la méthode du commissaire. Voilà. C'est intéressant de voir comment vous pensez l'exposition.
Et le Berlin, cette sculpture est une œuvre semi ou demi dissonante, en ce sens que ce n'est pas une œuvre qui peut rentrer dans la catégorie de la mise en réserve. Pourquoi ? La mise en réserve, c'est quelque chose, c'est un procédé qu'utilisent seulement les dessinateurs, pas les sculpteurs. Les sculpteurs, lorsqu'ils étudient une forme, ils l'étudient en totalité. Le corps et le drapé.
Et vous dites ça, en même temps, on va voir assez vite que dans le dessin, par exemple, on fait des nus et on fait des drapés et on met l'un sur l'autre au bout d'un moment et d'un processus.
Mais là, c'est dans le dessin. Mais pour la sculpture, Bernin, il met en réserve, mais lorsqu'il dessine. Mais lorsqu'il sculpte, lorsqu'il étudie, lorsqu'il modèle sa terre cuite, il modèle la statue, la figure en entier, des pieds jusqu'à la tête. Et la sculpture qu'on présente, la tête a disparu, tout simplement parce que l'œuvre est fragmentaire. Il en est de même pour l'autre sculpture qui est présentée dans la sous-section qui suit, qui s'intitule Détaillé, fragmenté, et qui montre la figure de Saint Longin, donc une sculpture qui prépare une énorme sculpture colossale qui se trouve dans l'une des niches de la croisée du transept de la basilique Saint-Pierre. Et là aussi, il manque des choses. Il manque des éléments. C'est une sculpture cassée, brisée, qui a subi les aléas du temps. Alors, mais il y a une demi-dissonance aussi, en ce sens que on s'est aperçu que cette sculpture était constituée de différents morceaux, des blocs, mais qui ne résultent pas d'une cassure ou d'une brisure involontaire. En fait, Bernin, dès le départ, avait pensé sa sculpture en forme de bloc, tout simplement parce que la sculpture colossale devait être constitué et a été constitué de blocs différents. Donc dès le stade de la mise en place de la figure, de son étude, il a constitué des blocs pour préfigurer la grande sculpture. Bon, je rentre dans des détails techniques, mais c'était aussi pour...
Mais puisque vous parlez des détails techniques, moi ça m'intéresserait que vous me disiez deux choses. C'est comment est-ce que les artistes travaillent avec le drapé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter le rapport, le nu, l'habillé, le drapé, le mannequin ? C'est quoi l'histoire ?
Alors, je vais essayer de parler de ça, mais de manière générique et non pas en m'appuyant sur un corpus d'œuvres bien précises appartenant à un seul artiste. C'est tout le propos de la deuxième section de l'exposition qui s'intitule « Pratique d'atelier ». On a essayé de montrer que pour étudier une draperie sur un corps, les artistes avaient à disposition deux types de simulacres. Un simulacre fin, le mannequin, et un simulacre réel. Bon, c'est un paradoxe, c'est une contradiction dans les termes, d'une certaine manière, mais le modèle vivant est utilisé comme un mannequin.
D'ailleurs, ce qui est assez drôle, quand l'exposition et dans le catalogue, on se rend compte que le modèle vivant, même pour des femmes, sont souvent des hommes.
Oui, alors, ça a été tout un...
C'est intéressant, parce que moi, je ne me doutais pas de ça, que pour représenter des sibylles, pour représenter des vierges, si vous aviez des mecs en train d'être recouverts d'une draperie.
Alors...
Enfin, je caricature pour
non, non,
vous
caricaturez pas. Par exemple, Federico Barocci, qui est un peintre italien originaire d'Urbain de la fin du XVIe, utilise exclusivement des modèles masculins pour représenter des vierges à l'enfant, pour représenter des saintes, la Madeleine ou d'autres figures appartenant à l'histoire sacrée.
Mais parce que c'est baroque et que c'est justement pour donner des formes plus puissantes, maniériste pour être pratique, dans l'esprit de Michel-Ange.
Il y a une raison pratique, c'est que dans son atelier ne travaillent que des assistants, des jeunes garçons, et il n'y a pas à disposition de modèles féminins. Bon, et puis, il n'y a pas, comme au XIXe siècle en France, des agences qui fournissent aux artistes des modèles féminins. Et puis, il y a la morale, qui interdit, ce n'est pas explicite, ce n'est pas dit, sauf à Rome. En tout cas, Urbain, il n'y a pas des lois édictées qui interdisent la mise à disposition de modèles féminins à des artistes. Et puis aussi, il y a une conception, je dirais, anthropologique. Au XVIe, XVIIe siècle, l'homme, la figure de l'homme, le corps de l'homme, domine. C'est celui qui fait référence. Il y a une vision unisexuelle de la figure humaine, et c'est l'homme qui fait référence. Donc, quand on étudie un homme, en fait, on peut le transformer facilement en femme. C'est ce que fait Federico Barocci, on le voit très bien sur ses dessins. On assiste à la transformation d'un jeune garçon en jeune femme, et ensuite en vierge drapée. Et ensuite, sur le même support, ce changement de genre, ce changement de sexe, c'est pas propre à Barocci, bien entendu. Donc l'homme est la mesure de toute chose, le corps humain, à cette époque-là. Thomas Laqueur, dans La fabrique du sexe, l'a bien montré hein, dans tous ses travaux. Et Michel-Ange, qui connaît parfaitement le corps humain et masculin, a fortiori, travaille également de cette manière-là. On a quelques dessins de lui où on voit, où on assiste à la transformation du corps masculin en corps féminin, mais bien entendu, on est chez Michel-Ange, la musculature est toujours présente, est toujours forte.
Alors, on a évoqué cette question du drapé, vous avez évoqué évidemment les techniques d'atelier, on vient de parler du modèle, vous avez évoqué même rapidement, mais c'était intéressant aussi, les supports de ces drapés qui étaient des mannequins. Donc, parce qu'il y a des mannequins, je suppose que c'est dans l'atelier depuis quand, les mannequins articulés? Alors, c'est depuis le XVIe?
Oui, la première référence, en fait, même au XVe siècle, c'est Filarete, un architecte dans son traité, qui parle de ces figures en bois. Il l'appelle sous ce nom-là, des figures en bois, ou des petits hommes. Et on sait que Fra Bartolomeo avait un mannequin en bois articulé dans son atelier, et Vasari l'avait dans son atelier également. Enfin, il l'avait hérité de ce mannequin. Et quand on regarde attentivement certains dessins, que ce soit de Michel-Ange, il y en a un qui est exposé d'ailleurs dans cette section, que ce soit Raphaël, mais même les Allemands, hein, Grunewald par exemple, tous utilisent des mannequins en bois articulé, alors de grandeur différente. Le dessin de Michel-Ange en question, qui est dans l'exposition, étudie la Sibylle d'Érythrée, et on devine parfaitement la structure schématique du mannequin sous le drapé qui occupe le premier plan du dessin.
Alors, donc ça, c'est une chose, mais oui, au fond, qu'est-ce qui se passe? Cette forme, j'aimerais bien qu'on élucide au fond le fond de l'exposition maintenant. Cette forme est une mémoire qui continue d'habiter l'art jusqu'à aujourd'hui. Il y a de nombreux exemples dans l'exposition d'art contemporain, Maurice Louis, ou d'art du XXe siècle en tout cas, par exemple, mais beaucoup d'autres. Et on sent que il y a ce que vous appelez une survenance. Il n'y a pas seulement une survivance, dites-vous, de la draperie, mais aussi une survenance. Ça veut dire qu'il ne peut pas ne pas y avoir un retour de la draperie, ou il ne pourrait pas y avoir une mémoire de la draperie si celle-ci avait perdu son sens à un moment donné. Qu'est-ce que vous voulez dire par survenance exactement?
Par survenance, je veux dire que la draperie est un motif qui a une longue histoire derrière elle, qui n'est pas seulement celle de la survivance, mais qui est celle aussi de son apprentissage, de sa formation, de la manière dont elle est faite, fabriquée, conçue. Donc c'est à la fois un jeu de mots avec la notion de survivance, de Narleben, que j'emprunte à Bivarbourg, mais c'est pour montrer que s'il y a eu survivance de toutes ces formes, s'il y a une mémoire très longue, c'est qu'il y a eu aussi une survivance. La survivance ne va pas sans survenance. Donc, j'ai essayé de lier dans cette exposition ces deux notions à travers des œuvres qui font office de pièces à conviction d'une certaine manière, surtout pour l'introduction, la profession de foi, la première salle où sont exposées ces œuvres qui mettent en exergue cette notion de survivance, et par la suite tout le propos tourne autour de la survenance. On essaye de montrer comment ces formes surgissent, comment elles sont étudiées, comment elles sont travaillées.
Alors il y a un moment où vous, dans le catalogue qui est très très beau, c'est vous qui écrivez, et puis à un moment donné vous citez un très bel extrait de Georges Didier Berman. Je vous propose de l'écouter parce que ça explique au fond la façon dont c'est essentiel et dont tiré de l'histoire, rendu dans le vent de l'aujourd'hui, cette question de la draperie a un sens profond. On vous écoute.
Silhouettes crépusculaires issues d'un passé lointain, les figures drapées de Moy Bridge traversent les séquences d'images avec plus de légèreté qu'un passe-muraille. Réminiscence de la statuaire antique et de la peinture classique, elles surgissent en brisant le cours du temps. Exception parmi les modèles nus ou revêtus de tenues contemporaines qui peuplent le recueil. Elles se détachent comme l'incarnation fragile d'un seul idéal féminin, dont le reflet se décuple d'image en image, comme pour rejoindre la nymphe qui envoûta Abi Warburg et dont Georges Didi Huberman a retracé la genèse. Ni personnage tout à fait, ni allégorie tout à fait, Ninfa n'offre qu'un erratique, mais ô combien insistant, leitmotiv dans la longue durée des images occidentales. De sarcophages antiques en tableaux renaissants, de sculptures baroques en photographies contemporaines, elle ne cesse de passer. On la reconnaît aux volutes intangibles, aux échappées, aux écharpes visuelles qu'elle laisse toujours sur ses pas derrière elle. Cheveux dénoués, draperie dans le vent, mystérieuse fluence. Éternelle passante, soulevant dans son sillage la palpitation de ses étoffes, Ninfa semble élue par la grâce. Moy Bridge paraît prisonnier de son charme et capture ses modèles drapés dans des scénarios dépourvus de but apparent, si ce n'est la recherche de la beauté. Ces exercices de mouvements gracieux culminent lorsque le modèle esquisse des pas de danse, faisant virevolter un pan vaporeux de sa robe. Ces chorégraphies marient la courbe des gestes et l'expression d'une émotion. Elles répondent aux codes picturaux exposés par Alberti, pour qui les actions des personnages se doivent de refléter les mouvements de l'âme.
Vous écoutez toujours L'Art et la Matière et nous sommes évidemment en train de parler du drapé depuis quelques instants avec notre ami Éric Pagliano. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'est vous qui aviez introduit ce texte de Georges Huberman, mais en fait, c'est un des autres membres de l'équipe d'exposition, Juliette Bouvresse, qui a fait cette introduction. Et justement, je voulais vous demander, lorsque Didier Huberman parle de Ninfa comme une sorte d'idée du modèle du drapé et du drapé d'un corps, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? C'est quoi cette expression?
Didier Huberman commente Abi Warburg lorsqu'il réutilise la figure de la ninfa qui a fasciné l'historien de l'art germanique. La ninfa et à travers elle le vêtement, le tissu, le drapé qu'elle porte et la figure du mouvement. Une sorte de gradiva.
Celle qui avance, dans le livre de Jensen.
Voilà, donc à un moment d'ailleurs on voulait introduire dans l'exposition cette figure de la gradiva, la figure de la ninfa, mais comme on a orienté le propos vers les processus de création et qu'on a évité de rentrer dans des questions non pas iconographiques, mais en tout cas qui relèvent d'une histoire de l'art qui a longtemps été, dominante. On s'est un peu écarté de cette vision. On n'a pas voulu faire du Didier Huberman, pour le dire de manière crue. J'admire profondément Didier Huberman.
Nous aussi.
J'ai lu tous ses textes et d'ailleurs le catalogue.
Ça fait beaucoup.
Le monde, ça fait beaucoup.
Enfin, une grosse bibliothèque.
Tout un rayon Didier Huberman chez moi. Mais il ne s'agissait pas de faire du Didier Huberman via Warburg ou on a voulu l'orienter vers notre propos. Mais dans cette sous-section qui tourne autour du mouvement, qui met en valeur la question du mouvement, la ninfa réapparaît de manière sous-jacente.
Alors il y a un moment mélancolique d'ailleurs dans le texte quand vous parlez, je pense que c'est autour de Didier Huberman justement, parce qu'il y a ce que dit le texte qu'on vient d'écouter, les mouvements de l'âme exprimés par ces draperies, ce qui est le sujet de l'exposition au fond, c'est 2500 ans d'exploration du sens profond de l'humain exprimé par ces draperies qui emportent les mouvements de l'âme d'une certaine façon. Je vais vite, mais c'est à peu près le sujet,
non ? Oui, c'est le... En fait, c'est à la fois le sujet, ça ne l'est pas. J'appelle ça d'ailleurs l'exposition prétéritive. C'est une prétérition, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en parler, mais on en parle, d'une certaine manière. On est obligé d'en parler, parce que la draperie, c'est en grande partie cela. Les émotions, les douleurs, la peur, etc. C'est aussi l'érotisme, bien entendu, qui est abordé de manière sous-jacente dans la question du nu et du drapé, mais qui n'est pas explicitement montré à travers des œuvres dont l'iconographie ferait référence à des questions érotiques, bien entendu. Mais ça parcourt toute l'exposition de manière plus ou moins poétique et sous-jacente à travers ces questions de processus.
Quoi. Alors à un moment donné, il y a une dégradation de la draperie. Et je pense que vous citez Didier Berman, oui, justement, à ce moment-là. Et quand vous parlez serpillière, des tissus qui bouchent les égouts, ouais. Ou bien ces tissus qui protègent les exilés, il y a quelque chose qui devient terrible. C'est-à-dire que ce qui devait porter l'esprit, ce qui devait porter le désir, est aussi le témoin d'une dégradation.
Effectivement. Je cite Didier Berman dans un des textes de présentation de l'exposition. Pour montrer que notre exposition ne s'est pas voulue chronologique. Et si elle avait été conçue de manière chronologique, il aurait fallu d'une certaine manière suivre ce schéma biologique. Donc la draperie née, enfin, qui a longtemps prédominé dans l'historiographie, la draperie née, elle se maintient plus ou moins au Moyen-Âge, elle renaît à la Renaissance, et puis elle meurt. Et là, j'utilise l'image de la serpillière que Didier Berman emploie également dans un de ses livres sur la Ninfa, le premier d'ailleurs de la longue série.
Mais il y a beaucoup de tissus abandonnés, vous en avez chez Manet, oui. Vous en avez Cartier-Bresson aussi, il y a ce tissu de Jean Hélion, comme je me souviens aussi d'un dessin de Cézanne, où c'est juste un linge à torchon au fond, accroché, et qui suffit à créer quelque chose de très, très fort, enfin... C'est devenu tellement chargé, l'idée du pli dans la draperie, qu'au fond, on peut laisser tomber n'importe quel, délaisser n'importe quel tissu. Il finit par devenir intéressant pour l'artiste.
Oui, alors il y a dans l'exposition une section qui s'intitule « Draper sans corps », où ne sont montrés que des dessins, des photographies, des peintures d'artistes de toutes les époques. On commence par Durer.
Il y a Durer de 1508 qui est absolument incroyable.
La chronologie n'est pas respectée, mais où l'on voit que des pans de draperie ou des torchons. Le corps est a priori absent. Il serait absent. Enfin, il est présent de manière sous-jacente. C'est une présence absente. Quand on regarde la vidéo d'Alain Fleischer qui montre un drap de lit, un corps, un visage apparaît. Quand on regarde les photos d'Alix Léo-Roubeau, ce sont des lits défaits, il y a un corps qui a été là, qui sera là à nouveau.
Quand on voit le lit de Delacroix,
vous voulez l'emprunter, vous voulez l'obtenir en prêt. Mais
c'est celui qui est à l'atelier de Delacroix, place Furstenberg. Voilà. On peut aller le voir.
On voulait emprunter aussi un dessin de Menzel, qui représente également un lit défait, sublime. Bon, on ne l'a pas obtenu, mais on a des photographies équivalentes de beauté sublime.
Mais vous avez aussi les gants d'ouvrier de Léger. Vous avez, ça, c'est d'ailleurs assez extraordinaire, cette série de Léger sur les draps jetés, sur les tissus abandonnés.
Léger
du travail,
fasciné,
c'est le Léger américain.
Voilà, c'est un Léger aussi qui fait écho aux maîtres anciens. Il a étudié Poussin, il a été fasciné par ses draps, ces tissus abandonnés au premier plan des tableaux de Nicolas Poussin, ces drapés sans corps. Et d'ailleurs, c'était un motif d'étude dans les ateliers, dans les académies. J'ai une anecdote racontée par un des biographes d'Annibal Carrache, un élève de Carrache qui s'appelait Cavedon. Cavedon se plaignait de ne plus avoir rien à faire. D'une certaine manière, il se disait « Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. » Et Carrache lui dit représente un tissu en train de tomber, un mouchoir en train de tomber. Non seulement il y avait la question du mouvement, mais également des plis en tant que tels, quoi, sans corps. Et cette anecdote, on la retrouve de manière différente, racontée par Ruskin et également par Valérie. Donc il y a une sorte de continuité autour du mouchoir.
J'adore ce peu. Et puis il y a Breton qui demande, mais pourquoi d'ailleurs, vous allez me le dire, qui demande à Cartier-Bresson... des tissus abandonnés.
Alors là, j'ai plus la référence en tête. Je vois très bien la photographie. C'est lié à une commande de Breton.
Mais tu voulais illustrer quelque chose. Oui. Je ne sais plus si c'est Nadja ou autre chose. Et il envoie effectivement quelques photographies qui sont extraordinaires. Juste des tissus qui flottent dans le vent, qui bougent un peu, etc. C'est absolument extraordinaire. Moi, je trouve ça merveilleux de me rendre compte à quel point on parcourt l'histoire de l'art avec ce sujet. Et ce sujet n'est pas, il suffit de se rendre compte à quel point c'est encore aujourd'hui un exercice des écoles des beaux-arts. Ce sujet n'est pas un sujet parmi d'autres. C'est pas l'histoire des fleurs, des bouquets. C'est un sujet central de toute l'histoire du corps dans l'art.
Quand on regarde une peinture ancienne comme moderne, une sculpture, dès qu'il y a du tissu, il y a un art draperie. C'est quelque chose qui parcourt tous les arts et étonnamment, ça n'avait jamais été étudié ni exposé.
Donc félicitations, succès l'exposition, malgré les grèves si je puis dire.
Les grèves nous handicapent bien entendu, mais nous espérons que le public sera au rendez-vous, il l'est en grande partie, en tout cas le public lyonnais.
Le catalogue a été un travail considérable, hein. Il y a des textes puissants, nombreux, c'est vraiment un très bel ouvrage. Les reproductions sont absolument fantastiques. Et évidemment, il y a toute la partie art contemporain, Orlan par exemple, fait une personnalité baroque extraordinaire qui apparaît comme une sainte Thérèse. Comme ça.
Voilà, alors ça c'est une œuvre dissonante qui s'intitule Striptease occasionnel, qui date du début des années 70 et qui est placé à la fin de la section qui s'appelle le G de la draperie, du nu au drapé, et qui est une sorte d'écho critique et malicieux d'un processus de création utilisé par les artistes de la Renaissance jusqu'à Picasso, voire Balthus, qui consiste à étudier le corps nu avant de représenter, de mettre en place le drapé.
Alors, il y a quelque chose que je voulais vous demander, par exemple, il y a des œuvres qui sont à la fois nues et qui ont une autre version drapée, par exemple la Vénus de Cnide ou par exemple la Maya nue, par exemple. Oui. Lesquelles restent le plus fortement en histoire? Est-ce que le nu gagne sur le drapé ou le contraire?
Pour la Mara et la Vénus de Cnide, ce sont deux choses totalement différentes, puisqu'on ne sait pas exactement si ces deux sculptures de Praxitèle étaient exposées côte à côte. Pour la Mara, il semblerait qu'elles le fussent, même s'ils ont été réalisés à deux moments différents. Et là, c'est vraiment un changement dans l'histoire des arts, c'est de montrer deux corps strictement dans la même attitude, nus et drapés. Et au XIXe siècle, certains artistes, comme Wiertz, comme Puvichavan, ont travaillé également de cette manière-là.
Et le nu en général gagne, mais bon, vous, ce que vous avez gagné, je trouve, c'est de nous inviter dans cette exposition extraordinaire. Merci Eric Pagliani.
Merci à vous.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Eric Pagliano, merci beaucoup Eric, le co-commissaire de l'exposition Drapé qui se tient au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 8 mars. Vous retrouverez les références de l'exposition, des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, lecture des textes La Belle Voix d'Emmanuel Lemire, prise de son Bastien Varigo, réalisation Somani Na, merci Somani. La semaine prochaine, nous travaillerons avec Jean-Marie Apriou, immense jeune artiste plein de promesses qui vient de faire une exposition superbe au Musée d'Art Contemporain de Dijon, le Consortium. L'exposition s'appelle Seabed, le lit de la mer. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Dandigue. Bon après-midi sur France Culture.